Pendant le trajet jusqu'à Aurora, Jack resta appuyé contre la fenêtre, dodelinant de la tête et se cognant à la vitre à chaque fois qu'on passait sur un nid de poule. Il poursuivait de longues conversations faites de marmonnements avec des interlocuteurs invisibles. Une fois, hors de la ville, Johnny et moi avons dû baisser nos vitres. L'odeur était trop horrible. Jack pourrissait de l'intérieur, mais ne mourait pas. J'ai entendu dire que la vie était fragile et tenait à rien du tout. Mais je n'y crois pas. Ce serait mieux. Ce docteur Moran n'était qu'une lavette, dit à un moment donné Johnny. Nous roulions alors au milieu des bois et Chicago était déjà loin derrière. J'ai décidé que je ne voulais pas m'associer à un type qui n'était qu'une lavette. Mais pas question de partir sans un petit quelque chose. Johnny ne quittait jamais son calibre qu'il glissait dans sa ceinture. Il le retira et ajouta « Je lui ai dit, si je peux rien emporter d'autre, Doc, je vais au moins te prendre la vie. » Il a vu que j'étais sérieux et il a appelé quelqu'un là-haut, Volney Davis. Je hochai la tête, comme si le nom me disait quelque chose. J'ai découvert plus tard que Volney Davis avait fait partie de la bande à Ma Barker. Une nana tout à fait sympa, tout comme Doc Barker, et comme la petite amie de Volney que tout le monde appelait Rabbits. Tout ça parce qu'elle s'était plusieurs fois fait la belle. Elle était la meilleure du lot, de première. Rabbits, au moins, essaya d'aider ce pauvre vieil emmerdeur de Jack, alors qu'aucun des autres n'aurait voulu lever le petit doigt pour lui. Ni les balanceurs de pilules, ni les faiseurs d'anges, ni les traficoteurs de portraits, et certainement pas le docteur Joseph Moran, dit « la lavette ». Les Barker étaient en fuite suite à un kidnapping raté. La mère de Doc, Ma, était déjà partie tout au bout du pays, en Floride. La planque d'Aurora n'avait rien du 4 étoiles. 4 pièces, pas d'électricité et les chiottes au fond du jardin. C'était cependant mieux que la piole du Murphy's. Et, comme je disais, la petite amie de Volney essaya au moins de faire quelque chose. Ce fut au cours de notre deuxième soirée sur place. Elle mit des lampes à pétrole tout autour du lit, puis stérilisa un couteau à découper dans de l'eau bouillante. « Si vous avez envie de dégueuler, les gars, nous dit-elle, retenez-vous au moins jusqu'à ce que j'aie fini. »« On tiendra le coup, Rabbits, dit Johnny. Pas vrai, Homer ? » Je hochais la tête, mais je commençais à avoir des papillons dans l'estomac avant même qu'elles ne s'y mettent. Jack était allongé sur le ventre, la tête de côté, et marmonnait. Il ne s'arrêtait jamais. Où qu'il soit, on aurait dit que la pièce était toujours remplie de gens que lui seul pouvait voir. « J'espère, dit-elle, parce qu'une fois que j'aurai commencé, il n'y aura pas moyen de revenir en arrière. » Elle leva les yeux et vit Doc qui se tenait dans l'embrasure de la porte, et derrière lui, Volney Davis. « Barre-toi, crâne d'œuf !» lui lança-t-elle. « Et emmène grand chef avec toi !» Volney n'était pas plus indien que moi, mais les autres aimaient le charrier parce qu'il était né sur le territoire de la nation Cherokee. Un juge lui en avait collé pour 3 ans à cause d'une paire de chaussures volées, et voilà comment on entame une carrière criminelle. Volney et Doc sortirent. Rabbits retourna alors Jack et lui fit une incision en croix, fouillant dans la plaie d'une manière que j'avais le plus grand mal à supporter. Je tenais Jack par les pieds. Johnny était assis à côté de sa tête, mais il n'arrivait pas à le calmer. Lorsque Jack se mit à hurler, Johnny lui plaça une serviette de toilette sur la tête et fit signe à Rabbits de continuer sans cesser de caresser le crâne de Jack et de lui dire de ne pas s'en faire, qu'il allait s'en sortir. Cette Rabbits, tout de même. On dit qu'elles sont fragiles, mais Rabbits n'avait rien de fragile, elle. Ses mains ne tremblèrent pas un instant. Du sang, souvent noir et grumeleux, sortait du trou dans lequel elle coupait et taillait. Encore un peu, et ce fut du pus qui sortit. En partie blanc, il contenait de grands morceaux verdâtres, comme d'énormes crottes de nez. C'était déjà affreux. Mais lorsqu'elle arriva au poumon, l'odeur devint carrément pestilentielle. J'aurais parié que c'était pas pire en France pendant les attaques au gaz. Jack hoquetait, la respiration sifflante, on entendait l'air qui passait dans sa gorge, mais aussi par le trou qu'il avait dans le dos. « Vaudrait mieux se dépêcher, » dit Johnny. « Il a une fuite dans la tuyauterie. »« Tu m'en diras tant, » répondit Rabbits. « La balle est logée dans son poumon. »« Contente-toi de le tenir, beau gosse. » En fait, Jack ne se débattait pas tellement. Il était trop faible. Le bruit de l'air qui entrait et sortait en sifflant de ses poumons devenait de plus en plus discret. Il était plus brûlant que l'enfer, avec toutes ses lampes placées autour du lit, et la puanteur du pétrole chaud était presque aussi forte que celle de la gangrène. Je regrettais de ne pas avoir pensé à ouvrir la fenêtre avant le début de l'opération, mais il était trop tard, maintenant. Rabbits avait pris des pinces, mais elle n'arrivait pas à les faire entrer dans la plaie. « Et merde !» cria-t-elle, balançant l'outil au loin. Puis elle enfonça les doigts dans le trou, plein de sang, fouilla, trouva la balle, la retira et la jeta par terre. Johnny commença à se pencher dessus, mais elle ne le laissa pas faire. « Tu pourras ramasser ton souvenir plus tard. Pour l'instant, tiens-le bien. » Elle se mit à empiler les compresses de gaz dans le massacre de plaies qu'elle venait d'ouvrir. Johnny souleva la serviette et regarda en dessous. « Il était temps, » dit-il avec un sourire. « Ce vieux rouquin d'Hamilton commence à virer au bleu. » Dehors, une voiture s'arrêta devant la maison. Il aurait pu tout aussi bien s'agir des flics, mais nous étions coincés. « Tu pinceras bien les lèvres, » me dit-elle en me montrant la plaie bourrée de gaz. « C'est pas mon fort, la couture, mais je pourrais bien lui faire une demi-douzaine de points. » Je n'avais aucune envie d'approcher les mains de ce trou, mais je n'allais pas lui dire non. Je pinçais donc comme elle me l'avait dit, et un pu à queue sortit encore de la plaie. Je sentis mon estomac se contracter et je me mis à avoir des hoquets caractéristiques. Burk, burk. Je ne pouvais pas me retenir. « Allons, voyons, » dit-elle, souriant presque. « Si t'es capable d'appuyer sur une gâchette, c'est que t'es pas un mec à avoir peur d'un trou de balle. » Sur quoi, elle le recousit à grands points, enfonçant l'aiguille avec brutalité. Après les deux premiers, je devins incapable de regarder. « Merci, » lui dit Johnny lorsqu'elle eut terminé. « Après un truc pareil, il faut que tu saches une chose. Je te laisserai jamais tomber. » « Ne sois pas trop optimiste, » répondit-elle. « Il n'a pas une chance sur 20 de s'en sortir. Mais si, il va se remettre à présent. » C'est alors que Doc et Volney arrivèrent en courant, avec derrière eux un autre membre de la bande, Buster Dags ou Drags, je ne me rappelle pas très bien. Bref, il avait passé un coup de fil depuis une station-service de la ville et il racontait que les Feds n'avaient pas chômé à Chicago, qu'ils avaient arrêté tous ceux qui auraient de près ou de loin un rapport avec l'affaire Bremer, le dernier gros coup monté par la bande à Barker. Un des types arrêtés était un certain John McLaughlin, dit le boss, une des grandes gueules de la politique à Chi. Mais surtout, ils avaient pris le docteur Joseph Moran, connu aussi sous le nom de « la lavette ». « Moran va manger le morceau et donner le nom du coin, sûr comme de la merde, Colodra, » dit Volney. « Tout ça, c'est peut-être que du bluff, » observa Johnny. Jack était inconscient à présent. Sur l'oreiller, ses cheveux roux faisaient l'effet de filaments de cuivre. « Ou de simples rumeurs. »« Tu peux toujours rêver, » dit Buster, « mais je tiens ça de Timmy O'Shea. » Et qui c'est, ce Timmy O'Shea, le torche-cul en chef du pape ? Le neveu de Moran, expliqua Doc, ce qui régla la question une fois pour toutes. Je sais ce que tu penses, beau gosse, dit Rabbits à Johnny. Et tu te fatigues pour rien. Si jamais tu fous ce type dans une bagnole et que vous vous tapez toutes les routes secondaires pleines de trous entre ici et Saint-Paul, il sera mort demain matin. « Vous pourriez le laisser, » suggéra Volney. « Quand les flics se pointeront, ils s'occuperont de lui. » Johnny était toujours assis à la même place, dégoulinant de sueur. Il paraissait fatigué, mais il souriait. Johnny arrivait toujours à sourire. « Pour s'occuper de lui, ils vont s'occuper de lui, sûr, mais pas pour l'amener à l'hôpital. Ils vont lui coller un coussin sur la tête et s'asseoir dessus. Je te parie ce que tu veux. » Ce qui me fit un drôle d'effet, comme vous le comprendrez certainement. « Vaut mieux vous décider rapidement, » dit Buster, « vu que la planque sera cernée demain dès l'aube. Moi, je fiche le camp. »« Partez tous, » dit Johnny. « Toi aussi, Homer. Je resterai ici avec Jack. »«
Et puis merde, » dit Doc. « Je reste, moi aussi. »«
Ouais, pourquoi pas ?» se demanda Volney Davis. Buster Daggs ou Draggs les regarda tous comme s'ils étaient cinglés. « Mais vous voulez que je vous dise ?» Je n'étais pas surpris. Pas du tout. C'était l'effet que Johnny faisait aux gens. « Moi aussi, je reste, » dis-je. « Ouais, eh bien moi, je me tire, » s'entêta Buster.
« Très bien. Dans ce cas, prends Rabbits avec toi, » lui suggéra Doc.
« Qu'est-ce que vous racontez ?» se rebiffa Rabbits. « J'ai envie de faire la cuisine. »
« T'es pas un peu malade ?» lui demanda Doc. « Il est 1h du matin et t'as du sang jusqu'au coude.
L'heure, je m'en fiche. Et le sang, ça se lave. Je vais vous préparer le plus formidable petit-déj de votre vie, les gars. Œufs, bacon, biscuits, sauce, boulettes de viande hachée. »«
Je t'aime.
Épouse-moi !» lança Johnny. Et nous éclatâmes tous du rire.
« Oh, et puis au diable !» dit Buster. « S'il y a un petit-déj, je vais rester. »
Et c'est comme ça que nous sommes tous restés dans cette ferme d'Aurora, prêts à mourir pour un type qui n'en avait plus pour longtemps, que cela a plu ou non à Johnny. Nous avons barricadé la porte d'entrée avec un canapé et des chaises, la porte arrière avec la cuisinière à gaz qui, de toute façon, ne fonctionnait pas. On ne pouvait faire de feu que sur la cuisinière à bois. Nous avons été prendre nos mitraillettes dans la Ford, Johnny et moi, et Doc est allé en chercher d'autres dans le grenier. Ainsi qu'une caisse de grenades, un mortier et sa caisse de munitions. J'aurais parié que les militaires du coin n'étaient pas aussi bien armés que nous.
Peu m'importe combien on en descendra si ce fils de pute de Melvin Purvis fait partie du lot, dit Doc.
Le temps que Rabbits dispose le casse-croûte sur la table, il était presque l'heure à laquelle les fermiers prennent leur petit déjeuner. On organisa un tour de garde. Il y eut toujours deux hommes pour surveiller l'allée. Buster donna une fois l'alarme, mais c'était seulement le camion de ramassage de lait sur la route principale. Les feds ne sont jamais venus. On peut toujours parler de tuyaux crevés. Moi, je dis que c'est la baraka de John Dillinger. Pendant ce temps, l'état de Jack ne faisait qu'empirer. Pas joyeuse, la dégringolade. Au milieu de l'après-midi, le lendemain, Johnny lui-même commençait à se dire qu'il n'allait pas tenir encore bien longtemps, même s'il ne l'aurait jamais déclaré ouvertement. « C'est pour la femme que je me sentais mal. » Elle vit du pus commencer à suinter entre les gros points de fil noir qu'elle avait fait, et elle se mit à pleurer. Elle ne pouvait pas s'arrêter. On aurait cru qu'elle connaissait Jack Hamilton depuis toujours.
« T'en fais pas, ma jolie, » lui dit Johnny. « Reprends-toi !» Tu as fait du mieux que tu as pu,
sans compter qu'il a peut-être encore une chance de s'en sortir.
C'est parce que j'ai pris la balle avec les doigts, dit-elle. J'aurais jamais dû faire ça, je le savais pourtant.
Non, dis-je, c'est pas ça.
C'est la gangrène, il l'avait déjà.
Des conneries, lança Johnny avec un regard noir pour moi. Une infection, peut-être, mais il n'a pas la gangrène.
On la sentait cependant dans le pus. Il n'y avait rien à dire. Johnny me regardait toujours.
« Tu te rappelles comment Harry t'appelait quand on était à Pendleton ?»
Je hochais la tête.
Harry, Pierpont et Johnny étaient les meilleurs amis du monde, mais Harry ne m'avait jamais aimé. S'il n'y avait pas eu Johnny, il ne m'aurait jamais accepté dans sa bande, car c'était la bande à Pierpont au départ, faut pas l'oublier. Harry me prenait pour un cinglé.
C'était quelque chose que Johnny ne voulait pas admettre. Il ne voulait même pas en parler. Lui voulait que tout le monde soit ami.
« Débrouille-toi pour m'en choper quelques grosses, » dit Johnny, « comme tu faisais quand tu étais à Pendleton. Des balaises qui bourdonnent. »
C'est quand il me demanda ça que je compris qu'il venait enfin d'admettre que Jack était fini.
Le mec aux mouches. Voilà comment Harry Pierpont m'appelait au centre de redressement de Pendleton, alors que nous n'étions encore que des gosses et que je pleurais tous les soirs en m'endormant, la tête sous l'oreiller pour que les matons n'entendent pas. Eh bien, Harry a continué sa carrière et a chevauché la foudre sur la chaise spéciale de l'État d'Ohio, et je me dis que, si moi j'étais cinglé, je n'étais pas le seul.
Rabbits était dans la cuisine, épluchant des légumes en vue du dîner. Un plat mijotait déjà sur la cuisinière à bois. Je lui demandais si elle avait du fil
et elle me rétorqua que je devais bien le savoir vu que j'étais juste à côté d'elle quand elle avait recousu mon copain. « Ouais, mais c'était du noir, et je voudrais du blanc. » « Une douzaine de morceaux, longs comme ça, » ajoutai-je, tenant mes deux index à un intervalle d'environ 20 centimètres. Elle était curieuse de savoir ce que je voulais en faire, et je lui dis qu'elle n'avait qu'à regarder par la fenêtre de la cuisine qui était juste au-dessus de l'évier. « Il n'y a rien dans la cour que les petits coins, et je ne suis pas intéressé à vous regarder faire votre petite affaire, Mister Van Meter. » Elle avait un sac accroché dans la penderie. Elle fouilla dedans et en retira une bobine de fil blanc dont elle me coupa 6 morceaux. Je la remerciai aimablement et lui demandai alors si elle avait des pansements adhésifs. Elle en sortit quelques-uns du tiroir à côté de l'évier me disant qu'elle n'arrêtait pas de s'entailler les doigts. J'en pris un et me dirigeai vers la porte. Je m'étais retrouvé à Pendleton pour vol. Je piquais des portefeuilles sur la ligne de New York avec ce même Charlie Maclay. Le monde est petit, pas vrai? Bref. Pour ce qui était de tenir les voyous occupés, la maison de redressement de Pendleton, Indiana, n'avait de leçons à recevoir de personne. Il y avait une laverie, un atelier de menuiserie et charpente et un atelier de confection, où les Bleus fabriquaient des chemises et des pantalons, surtout destinés aux gardiens du système pénitentiaire de l'Indiana. On l'appelait aussi l'atelier de confessier. C'était ce que j'avais tiré, et c'est là que j'ai rencontré Johnny et Harry Pierpont. Johnny et Harry n'avaient jamais de problème pour faire leur journée, alors qu'il me manquait toujours 10 chemises ou 5 pantalons pour remplir mon quota. Si bien que je me retrouvais régulièrement debout sur la natte. Les matons croyaient que c'était parce que je n'arrêtais pas de faire le clown. Harry aussi. La vérité, c'était que j'étais lent et maladroit, ce que Johnny, lui, paraissait comprendre. Et c'était pour ça que je faisais le clown. Si on ne remplissait pas son quota, sa journée, on passait la journée suivante dans la salle des gardiens, où il y avait une natte de roseaux d'environ 50 centimètres carrés. On devait se déshabiller complètement, sauf les chaussettes, et rester debout toute la journée. Un seul pas hors de la natte, et on prenait un coup de bâton sur les fesses. Un deuxième pas hors de la natte, et un maton vous maintenait pendant qu'un autre vous frappait. Au troisième faux pas, c'était une semaine dans le trou, seul. On pouvait boire toute l'eau qu'on voulait, mais c'était un piège. On n'avait droit qu'à une seule sortie par jour pour aller aux toilettes. Si jamais on était pris en train de se pisser dessus sur la natte, on était battu et expédié au trou. On crevait d'ennui à Pendleton, on crevait d'ennui à Michigan City, la prison de Mister Bondieu pour grandes personnes. Certains se racontaient des histoires, d'autres chantaient, d'autres encore établissaient la liste des filles qu'ils baiseraient lorsqu'ils sortiraient. Moi, je m'entraînais à dresser des mouches. Les petits coins sont un endroit idéal pour dresser les mouches. Je me postais devant la porte et préparais des boucles sur les fils que m'avait donné Rabbits. Après ça, pas grand-chose à faire, sinon rester le plus immobile possible. Un talent que j'avais appris sur la natte, et qui ne s'oublie pas. Ça ne me prit pas longtemps. On trouve des mouches dès le début du mois de mai, mais elles sont lentes. Et si vous croyez qu'il est impossible de prendre une mouche à merde ou un thon au lasso, eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez être mis au défi, essayez donc les moustiques. Au bout de 3 lancers, j'avais attrapé ma première. Ce n'était rien, il m'était arrivé de passer la moitié de la matinée sur la natte avant d'en prendre une. Rabbits, qui m'avait observé, me cria « Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est un tour de magie ?» De loin, on aurait vraiment dit un tour de magie. Il faut se représenter comment elle voyait la scène à 20 mètres de là. Un type, debout devant la porte des chiottes qui lance un morceau de fil dans le vide, avez-vous l'impression? Mais au lieu de retomber au sol, le fil se met à pendre en l'air. En l'occurrence, j'avais attrapé un thon d'une belle taille. Johnny l'aurait vu, mais Rabbits n'avait pas les yeux de Johnny. J'attrapais l'autre extrémité du fil et la collai à la poignée de la porte à l'aide du pansement adhésif. Puis j'attendis la suivante. Et la suivante. Rabbits sortit pour voir ça de plus près. Je lui dis qu'elle pouvait rester à condition de ne pas bouger. Elle essaya, mais rester tranquille n'était pas son truc, et je finis par lui demander de rentrer parce qu'elle faisait peur à mon gibier. Mon embuscade dura 1 heure et demie, au point que je ne sentais même plus l'odeur qui sortait de la cabane. Puis il commença à faire froid, et mes mouches devinrent de plus en plus léthargiques. J'en avais 5. Selon les normes de Pendleton, c'était un beau troupeau, mais rien d'extraordinaire pour quelqu'un qui chassait à côté des chiottes. Bref, je devais rentrer, sinon le froid les empêcherait de voler. Quand je retournais dans la cuisine, marchant lentement, je fus accueilli par les rires et les applaudissements de Doc, Volney et Rabbits. La chambre de Jack était de l'autre côté de la maison, et on n'y voyait pas très bien. C'est pour cela que j'avais demandé du fil blanc et pas noir. J'avais l'air de tenir 5 ballons invisibles, si ce n'est qu'on entendait les mouches bourdonner, affolées et furieuses, comme toute bestiole piégée qui ne comprend pas ce qui lui arrive. « Que je sois pendu, Homer, » dit Doc Barker, « et 2 fois plutôt qu'une. Où c'est que t'as appris ce truc ? Maison de redressement de Pendleton. Qui t'a montré ça ? Personne ? J'ai juste fait ça un jour. » « Comment se fait-il que les fils ne se mélangent pas ?» demanda Volney, les yeux écarquillés. « Je peux vous le dire, je bichais. »« Je sais pas, » répondis-je. « Elles volent toujours dans un espace donné et le quittent rarement. C'est un mystère. »« Homer !» me lança Johnny depuis l'autre pièce. « Si tu les as chopés, c'est le moment ou jamais de te ramener avec. » Je me remis en marche pour traverser la cuisine, entraînant mes insectes par leur licou tel un vrai cow-boy. Rabbits me toucha le bras. « Fais attention. Ton copain n'en a plus pour longtemps et ça rend ton autre copain cinglé. Il ira mieux après, mais pour l'instant, il est dangereux. » Je le savais mieux qu'elle. Quand Johnny voulait quelque chose, il était bien rare qu'il ne l'obtienne pas. Cette fois-ci, il ne l'obtiendrait pas. Jack se tenait redressé sur les oreillers, la tête enfoncée au milieu. Et s'il était blanc comme du papier, il avait retrouvé tous ses esprits. C'est parfois ce qui arrive aux mourants, juste avant la fin. « Homer !» dit-il d'un ton aussi joyeux qu'il lui était possible. Puis il vit les fils et se mit à rire. C'était un rire aigu, sifflant, pas du tout normal, qui le fit aussitôt tousser. Il toussait et riait en même temps. Du sang jaillit de sa bouche, quelques gouttes, atterrir même sur mes fils. « Exactement comme à Michigan City !» dit-il, se tapant sur la cuisse. Le sang coulait maintenant le long de son menton et tombait sur son tricot de peau. « Comme dans le bon vieux temps !» Il se remit à tousser. Johnny avait une expression terrible sur le visage. Visiblement, il aurait voulu que je quitte la chambre avant que Jack ne tombe en morceaux. En même temps, il savait très bien que ça n'avait foutrement plus d'importance et que si, pour qu'il meure heureux, on devait offrir à Jack une poignée de mouches à merde attachées par des fils, il fallait en passer par là. « Jack, » dis-je, « faut que tu te calmes. »«
Mais non, je vais bien maintenant. » « Approche-toi, que je les vois mieux. »
Mais il ne put rien ajouter, car il s'était remis à tousser, plié en deux, les genoux remontés, le creux qu'il formait dans le drap était tout éclaboussé de sang. Je regardais Johnny, et il acquiesça. Il venait de franchir une étape dans sa tête. Il m'encouragea d'un signe de la main. Je m'avançais lentement, et les fils s'élevaient de ma main, simple ligne blanche dans la pénombre de la chambre. Quant à Jack, il était trop amusé pour se rendre compte que sa toux était la dernière.
« Lâche-les »
dit-il d'une voix si grasse et rauque que j'avais du mal à le comprendre.
« Je me souviens !»
Je les lâchai donc. Pendant 1 seconde ou 2, les fils restèrent pris ensemble, collés par leur extrémité inférieure à cause de la transpiration de ma main. Puis ils se séparèrent lentement et restèrent bien droits en l'air. Je revis soudain Jack dans la rue, après le casse de la Mason City Bank. Debout, il nous couvrait d'un tir nourri de mitraillette, Johnny, Lester et moi, pendant que nous poussions les otages dans la voiture. Les balles sifflaient autour de lui, et même s'il fut légèrement blessé, on aurait dit qu'il était éternel. Et voilà qu'il gisait dans un lit, les genoux pointants sous un drap couvert de sang.
« Bon Dieu !» « Regardez-moi ça !»
dit-il lorsqu'il vit les fils blancs s'élever tout seuls.
« Hé, c'est pas tout, Jack !» dit Johnny. « Regarde un peu par ici. »
Il fit un pas vers la porte de la cuisine et, après avoir exécuté un demi-tour, il salua comme un artiste sur une scène. Il souriait, mais jamais je n'avais vu de sourire aussi triste de ma vie. Nous faisions ce que nous pouvions, tout ce que nous pouvions. On n'allait tout de même pas lui offrir un dernier repas, n'est-ce pas ?
Tu te rappelles, quand je marchais sur les mains dans l'atelier de chemise ?
Ouais. Et n'oublie pas le baratin.
Mesdames et messieurs, voici à présent au milieu de la piste pour votre plaisir et votre divertissement, John Herbert Dillinger.
Il prononça le G dur, gueur, comme le faisait son paternel, comme il le prononçait lui-même avant de devenir célèbre. Puis il frappa une fois dans ses mains et se jeta sur le sol, paume en avant.
Buster Crabbe n'aurait pas mieux fait.
Les jambes de son pantalon lui tombèrent sur les genoux, exhibant le haut de ses chaussettes et ses tibias. Sa monnaie tomba de ses poches et roula bruyamment sur le plancher. Et il entreprit de traverser la pièce ainsi, sur les mains, toujours aussi souple, chantant « Tra-ra-ra-boum-di-hey » à plein poumon. Les clés de la Ford volée tombèrent aussi de sa poche. Jack s'esclaffait à grand hoquet-rauque, comme s'il avait la grippe. Et Doc Barker, Volney et Rabbits, qui se tenaient dans l'encadrement de la porte, riaient aussi, à gorge déployée. Rabbits battit des mains et cria « Bravo, encore !» Au-dessus de ma tête, les fils blancs flottaient toujours, ne dérivant que peu à peu. Je riais, comme tout le monde, lorsque je vis ce qui allait se passer et m'arrêtai.
« Johnny, fais attention à ton pétard, Johnny, il va tomber !»
C'était ce foutu calibre 38 qu'il avait en permanence passé dans la ceinture qui en glissait peu à peu. «
Quoi ? » dit-il.
L'arme tomba sur les clés et le coup partit. Un 38 n'est pas le pétard le plus bruyant du monde, mais la détonation n'en fut pas moins assourdissante dans la petite chambre. Et la flamme sacrément brillante. Doc poussa un cri, Rabbits hurla. Johnny ne dit rien, exécutant un saut périlleux complet et atterrissant sur la figure. Ses pieds retombèrent brutalement au ras du lit dans lequel Jack Hamilton se mourait. Puis il ne bougea plus. Je courais à lui, chassant les fils au passage. Je crus tout d'abord qu'il s'était tué, parce qu'il avait la bouche et les joues couvertes de sang quand je le retournais. Puis il se mit sur son séant. Il s'essuya le visage, regarda le sang, me regarda.
« Sainte mère d'Homer, je me suis tiré dessus ?»«
J'en ai bien l'impression, » lui répondis-je.
« C'est grave ?»
Avant que j'aie pu lui dire que je ne savais pas, Rabbits m'avait repoussé et essuyé le sang avec son tablier. Elle le regarda attentivement pendant 2 ou 3 secondes.
« Tu vas très bien. Ce n'est qu'une égratignure. »
On se rendit compte plus tard, en fait, qu'il avait 2 égratignures. La balle lui avait coupé le dessus de la lèvre supérieure, avait continué dans l'air pendant 3 ou 4 centimètres, puis l'avait de nouveau touché à la pommette, juste sous l'œil. Après quoi, elle avait été se loger dans le plafond, non sans pulvériser l'une de mes mouches au passage. Je sais que ça paraît difficile à croire, mais je vous jure que c'est vrai. Le fil était retombé en un petit tas sur le plancher et, mis à part 2 pattes, il ne restait plus rien de la bestiole.
« Johnny, » dit Doc, « je crois que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, mon vieux. »
Il n'eut pas besoin de nous dire ce que c'était. Jack était toujours assis dans son lit, mais la tête tellement penchée en avant que ses cheveux touchaient le drap entre ses genoux. Pendant que nous regardions si Johnny était gravement blessé ou non, Jack était mort. Doc nous conseilla de transporter le corps de Jack jusqu'à une carrière à environ 3 km, juste au-delà des limites administratives d'Aurora. Il y avait sous l'évier de la soude caustique que Rabbits nous donna. « Vous savez comment vous en servir ?» nous demanda-t-elle.
« Ouais, » répondit Johnny.
Il avait un pansement adhésif sur la lèvre supérieure à l'endroit où sa moustache ne repousserait plus. Il paraissait déprimé et détournait le regard. « Arrange-toi pour qu'il le fasse, Homer, » me dit-elle avec un geste vers la chambre dans laquelle était resté le corps de Jack, enveloppé dans le drap taché de sang. S'il le trouve et l'identifie avant que vous ayez dégagé, ça ne va pas arranger vos affaires, ni même les nôtres, sans doute.
Vous avez été les seuls à nous accepter, lui répondit Johnny, et on ne vous donnera pas l'occasion de le regretter.
Elle lui sourit.
Les femmes craquaient presque toujours pour Johnny. Je croyais que Rabbit c'était une exception à voir la façon très pro dont elle s'était comportée jusqu'ici, mais je m'étais trompé.
Elle avait gardé une attitude réservée simplement parce qu'elle savait que, question physique, elle n'était pas tellement avantagée.
Sans compter que, lorsqu'une femme de bon sens se trouve coincée quelque part en compagnie d'une bande de types tous plus enfouraillés les uns que les autres, elle évite de flanquer la pagaille.
« On aura levé le camp à votre retour, » dit Volney. « Ma Barker n'arrête pas de parler de la Floride. Elle a en vue un coin peinard sur le lac vers... »«
La ferme, Volney !»
le coupa Doc en lui donnant un coup de poing appuyé à l'épaule.
« Ouais, bon, on fiche le camp d'ici, » dit Volney en se frottant l'endroit endolori.
« Vous devriez en faire autant. Emportez vos affaires. Les choses peuvent changer le temps de le dire. »«
Vu !»
dit Johnny.
« Au moins... »
« Il est mort heureux, » observa Volney en riant.
Je ne dis rien. Je commençais à prendre conscience que Jack Hamilton, dit le rouquin, mon vieux pote de cavale, était vraiment mort. Ça me rendait affreusement triste. J'essayais de penser au gag de la balle qui n'avait fait qu'effleurer Johnny et réussi finalement à tuer une mouche, me disant que ça me remonterait le moral. Mais rien à faire. Je me sentis encore plus mal.
Doc me serra la main, serra celle de Johnny, il était pâle et paraissait morose.
« Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là, c'est la pure vérité, » dit-il. « Quand j'étais gamin, la seule bon Dieu de choses qui m'intéressait était de devenir ingénieur des chemins de fer. »«
Je vais te dire un truc, » lui répondit Johnny. « On n'a pas à s'en faire, au bout du compte. »
Dieu remet les pendules à l'heure.
Nous sommes partis avec Jack, enveloppé dans son drap à l'arrière de la Ford, pour sa dernière balade. Johnny roula jusqu'à l'autre bout de la carrière à ciel ouvert, par un chemin tout en bosse et nid de poule. Dans ce genre de terrain, je préfère vraiment une terraplane à une Ford. Puis il coupa le moteur et porta la main au pansement de sa lèvre supérieure.
« J'ai épuisé ma réserve de chance aujourd'hui, Homer. Ils vont m'avoir maintenant.
Ne parle pas comme ça.
Et pourquoi pas? C'est vrai. »
Au-dessus de nous, le ciel était blanc. La pluie menaçait. Je me dis que nous allions prendre une sacrée averse entre Aurora et Chicago. Johnny avait décidé que nous retournerions dans cette ville parce que les Feds nous attendraient à Saint-Paul. Des corbeaux invisibles croissaient. Le seul autre bruit était le tic-tic-tic du moteur qui refroidissait. Je n'arrêtais pas de regarder le corps enroulé dans son drap, dans le rétroviseur. On voyait les bosses dessinées par les genoux et les coudes, les fines traînées de sang faites lorsque, à la fin, plié en deux, il toussait et riait en même temps.
« Regarde ça, Homer !» dit Johnny avec un geste vers le 38 enfoncé dans sa ceinture.
Puis il se mit à jouer avec le trousseau de clés de Mr. Francis. Les empreintes revenaient au bout de ses doigts en dépit de tout le mal qu'il s'était donné. Il y avait, en plus de celle de la Ford, trois ou quatre clés et la patte de lapin porte-bonheur.
« La crosse est tombée droit dessus, » ajouta-t-il en hochant la tête. « Elle est venue taper direct sur mon porte-bonheur. Fini la chance pour moi. Allez !»
« Donne-moi un coup de main. » Nous avons tiré Jack jusqu'à la pente de la carrière, puis Johnny est allé prendre la bouteille de soude. Il y avait une grande tête de mort et des tibias sur l'étiquette. Johnny s'agenouilla et tira le drap. « Enlève-lui ses bagues, » me demanda-t-il, ce que je fis. Johnny les mit dans sa poche. Nous en avons tiré $45 à Calumet City, en dépit de Johnny qui jurait ses grands dieux que la petite avait un diamant.
Et maintenant, tiens-lui les mains. Je m'exécutai, et Johnny versa un bouchon de soude sur le bout de chacun de ses doigts.
Voilà des empreintes qui ne reviendraient plus jamais. Puis il se pencha sur Jack et l'embrassa sur le front.
J'ai horreur de devoir faire ça, rouquin. Mais je sais que tu aurais fait la même chose
si j'avais été à ta place. » Il versa alors la soude sur le visage de Jack. Les joues, le front, la bouche se mirent à siffler, à pétiller et à blanchir. Quand les paupières commencèrent à être mangées, je détournai les yeux. Bien entendu, tout cela ne servit à rien. Un fermier trouva le cadavre après avoir fait un chargement de gravier. Des chiens avaient déplacé les pierres dont nous l'avions recouvert et avaient dévoré ce qui restait de ses mains et de sa figure. Quant au reste du corps, il comportait assez de cicatrices pour que l'identité judiciaire puisse dire avec certitude qu'il s'agissait de Jack Hamilton. Et ce fut la fin de la chance pour Johnny, c'est vrai. Toutes les décisions qu'il prit ensuite, jusqu'au jour où Purvis et ses pieds nickelés en tenue lui firent la peau à côté du Biograph, se révélèrent mauvaises. Aurait-il pu lever les mains en l'air et se rendre ce soir-là? À mon avis, non. Purvis le voulait mort et pas autrement. C'est pour cette raison que les Feds n'ont jamais dit aux flics de Chicago que Johnny était de retour chez eux. Je n'oublierai jamais la façon dont Jack avait ri lorsque je lui avais apporté les mouches au bout de leur fil. C'était un bon gars. Presque tous étaient des bons gars, mais qui avaient pris un mauvais aiguillage. Et Johnny était le meilleur du lot. Personne n'eut jamais ami plus fidèle. Nous avons cambriolé une banque de plus ensemble, la Merchants National à South Bend, dans l'Indiana. Lester Nelson était sur le coup avec nous. En quittant la ville, on avait l'impression que tous les péquenauds de l'Indiana nous canardaient, et pourtant, on s'en est tiré. Et tout ça, pour quel résultat? On avait espéré se faire dans les 100 000 billets, assez pour passer au Mexique et vivre comme des rois. Et finalement, juste 20 000 dollars, la plupart en pièces de 5 cents ou en billets crasseux de 1 dollar. Au bout du compte, Dieu remet les pendules à l'heure, avait dit Johnny à Doc Barker avant que nous nous séparions. J'ai été élevé dans la religion chrétienne. Je reconnais avoir pris quelques libertés avec elle au cours du voyage, et il y a une chose que je crois, que nous sommes prisonniers de ce que nous avons, mais que ce n'est pas un problème, qu'aux yeux de Dieu, aucun de nous n'est rien de plus en vérité qu'une mouche attachée à un fil, et que ce qui compte est la lumière que vous répandez en chemin. La dernière fois que j'ai vu Johnny Dillinger, c'était à Chicago. Et il riait à une de mes plaisanteries. Ça me suffit. Enfant, j'étais fasciné par les histoires des hors-la-loi de l'époque de la Grande Dépression. Intérêt qui a probablement atteint son apogée avec le film remarquable d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde. Au printemps 2000, je me suis replongé dans une relation historique de cette époque, The Dillinger Days, de John Toland. Et j'ai été particulièrement intéressé par le personnage de Homer Van Meter, le second couteau de Dillinger, qui avait appris à attraper les mouches au lasso pendant son séjour à la maison de redressement de Pendleton. La longue agonie de Jack Hamilton, dit le rouquin, est un fait authentique. En revanche, ce qui se serait passé dans la planque de Doc Barker est pure invention de ma part. Pure invention, ou mythe, si vous préférez ce mot, comme c'est mon cas.